En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Symbolique et rhétorique chez Bach. C'est un Bach orateur musical que présente le musicologue Gilles Cantagrel. Voici la retransmission de sa communication devant l'Académie des Beaux-Arts. C'était le 16 janvier 2008. Vous trouverez sur le site de Canal Académie l'intégralité de l'intervention de Gilles Cantagrel.
J'ai choisi de présenter un cas limite et emblématique, celui d'un compositeur de génie, musicien universel, qui domine ce grand siècle de la rhétorique. Un siècle et demi même, où chacun, de Monteverdi à Rameau, se considère comme un orateur avant tout. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le tout premier biographe de Bach, Forkel, directement informé auprès des fils du compositeur, parle de lui dès 1802 en le nommant le plus grand orateur et le plus grand poète musical des temps passés et futurs. Orateur donc, mais en musique. Ce qui veut dire que, si belle, si pure soit-elle, si formellement accomplie, l'œuvre de Bach aurait, par surcroît, quelque chose à dire. Mais pourquoi s'en étonner ? Chacun sait qu'en de nombreuses époques de l'histoire, les œuvres d'art ont eu recours, à un degré ou à un autre, à des représentations symboliques dont la portée dépasse le simple objet proposé à la contemplation. Les plasticiens le savent mieux que quiconque. Que cette dame dont j'admire la représentation soit à la licorne, à l'hermine ou au chardonneret, est toute ma compréhension de ce qui m'est montré s'en trouve éclairée et peut-être même bouleversée. Ce ne sont pas là des accessoires d'atelier, mais bien des signes porteurs d'un sens précis, selon un code symbolique, signes qui nous mettent sur la voie du sens général de cette représentation et peuvent nous suggérer des métaphores. Et que dire de la nature morte hollandaise du XVIIe siècle, à peu près contemporaine, donc l'époque baroque ? Si je me permets d'user de ce terme déplaisant de nature morte auquel les anglo-saxons bien inspirés préfèrent celui de still life ou de still leben, la vie silencieuse, je préfère la vie à la mort en l'occurrence. Eh bien, les espèces botaniques, même des fleurs, le genre des insectes qui s'y promènent, du poisson, du fromage, la disposition du verre, de la carafe ou du couteau, la pelure du citron, les plis de la nappe, tout porte un sens. Et tous ces signes interagissent pour adresser au spectateur un message, codé certes, mais précis, même si nous ne savons plus aujourd'hui comprendre les interpellations qui nous sont lancées. Je ne parle pas ici même des sculpteurs des chapiteaux romans, dont les scènes, si pittoresques puissent-elles paraître, avec leur cortège de monstres et d'objets bizarres, leur luxuriant décor végétal et leur cohorte de personnages les plus divers, parfois en d'étranges postures, affairés à un muet artisanat. Tout cela a bien pour fonction de proposer à notre attention un enseignement et à notre réflexion une édification. Pourquoi donc refuserait-on à la musique, avec les moyens qui lui sont propres, des pouvoirs que l'on reconnaît aux arts plastiques qui, pas plus qu'elles, ne sont dotés du langage verbal? Car enfin, le musicien lui aussi dispose d'un formidable arsenal d'outils dont il peut user à des fins allégoriques, les tonalités, l'harmonie avec ses tensions et ses détentes, les instruments et les voix, les motifs et toutes ces cellules rythmiques et mélodiques organisées en figures telles qu'elles se sont développées en Italie dès le début du XVIIe siècle. Bien conscient qu'ici, aujourd'hui, je ne puis que me borner à évoquer l'existence de cette préoccupation symbolique et rhétorique qui a fait alors l'objet de très nombreux traités, et plutôt que de vouloir théoriser à mon tour, je voudrais illustrer mon propos d'exemples concrets. Jean-Sébastien Bach, il est profondément chrétien. On ne peut donc envisager l'analyse de ses œuvres qu'au moyen des références culturelles et spirituelles qui étaient les siennes en son temps, celles à la fois de l'Aufklärung et de la théologie luthérienne. Les fonctions de musicien d'église de cet admirable connaisseur des Écritures en faisaient un serviteur de liturgie associant étroitement la parole et la musique, le verbe et le son. La cantate en particulier est alors considérée comme un double de la prédication orale qu'elle encadre, cantate avant, cantate après la prédication, sur un thème commun. Écoutons donc les voix des chanteurs de ces cantates et de ces oratorios. Bien, à l'opéra, comme dans la vie, c'est la voix qui caractérise le plus précisément un être, un personnage, la candide ou la jalouse, le passionné ou le traître. De même, dans la musique religieuse, pourquoi pas? Et du reste, par bien des aspects, Bach n'a pas cessé de composer des actes d'opéra, et même des opéras entiers avec les passions. Traditionnellement, le soprano y incarne l'amour, la félicité, la confiance. L'alto, la peine, l'âme endolorie, meurtrie. Le ténor, lui, chante l'espérance. Mais il y apparaît aussi comme l'homme souffrant de ses fautes. Or, malgré les apparences, il n'y a pas contradiction entre ces deux rôles qui lui sont assignés. Parce qu'il est chrétien, cet homme se sait pécheur et souffre de ses fautes. Mais toujours parce qu'il est chrétien, il lui est donné d'espérer dans le pardon. Une seule et même voix doit donc faire comprendre cette ambivalence. Quant à la basse, tout le monde le sait à cette époque, c'est principalement Vox Christi, la voix du Christ et par extension de Dieu ou des prophètes. Parmi les quelques 200 cantates d'église connues de Bach, il en est une, je pourrais citer 1000 exemples bien sûr, qui commente la parabole du repas de noces. Le fils du roi s'élance avec ferveur à la rencontre de la fiancée qui l'attend, dans un style poétique fleuri, ravissant, inspiré du Cantique des Cantiques. Que la jeune fille heureuse soit chantée par un soprano, rien d'étonnant. Mais contre toute attente, dès les premières notes de son chant, le fiancé, je dirais le jeune premier, comme à l'opéra, se manifeste non pas par un ténor, mais par une voix de basse. Mais tout auditeur en ce temps comprend ipso facto que ce fils du roi est le Christ, fils de Dieu, sans qu'il soit besoin de le nommer. Et le sens de la parabole qu'on va nous expliquer et commenter s'en trouve annoncé d'entrée de jeu. Les instruments à présent. Lorsque Richard Wagner veut montrer musicalement l'épée qu'il destine à son héros, il la profile dans un motif très simple, vigoureusement ascendant, en un ut majeur éclatant et joué à la trompette. Or, rien ne dit que ce thème bien frappé désigne une épée. Si imagé soit-il, le leitmotiv n'acquiert sa signification qu'après avoir été exposé en association avec un texte qui en explicite le sens. Après quoi, il peut entrer dans la symphonie orchestrale et participer sous ses métamorphoses au développement dramatique porteur de l'identité qui lui a été conférée. Un premier degré, Bach, lui aussi, procède de la sorte. Lui aussi en appelle à la trompette pour manifester l'éclat de la puissance spirituelle ou temporelle, au corps pour cerner l'espace de la nature, au violon piccolo qui plane dans l'aigu pour évoquer la béatitude de la vie surnaturelle et le paradis. Mais il va mener à un degré bien plus élevé cette symbolique élémentaire, et c'est là ce qui nous intéresse. Exemple, le hautbois. Il y a plusieurs fonctions au bois, dans la musique de Bach en particulier, mais il figure traditionnellement et avant tout l'instrument populaire des bergers. Tous les musiciens de ce temps, en Allemagne, en Italie, en France, recourent au hautbois pour évoquer les pastorales de la nativité. Bach n'échappe pas à la règle dans son oratorio Noël et dans ses cantates pour la fête de la nativité. Mais il y a beaucoup plus surprenant. C'est encore au hautbois qu'il fait appel dans ses méditations intimes sur la mort. Alors, naissance ou mort? En l'occurrence, loin de se contredire, il se livre à une catéchèse très simple. Pour le chrétien qu'il est, et pour les chrétiens à qui il s'adresse, la mort n'est rien d'autre que le passage obligé vers la résurrection à la vie surnaturelle, et donc vers une nouvelle naissance. La mort terrestre est l'annonce d'une naissance d'un autre ordre, et c'est bien ce qu'indique le commentaire du hautbois de la Nativité à des auditeurs parfaitement conscients de la leçon qu'il leur est rappelée. À l'évocation sonore de la Nativité, Bach associe aussi fort souvent le rythme de la Sicilienne avec son doux balancement, son caractère profondément paisible et tendre. Berceur même, qui convient à l'atmosphère pastorale. Ce qui veut dire que les figures métriques de la danse portent également, comme les voix et les instruments, leur signification et leur connotation dans les codes symboliques de l'époque. Ainsi, peut-on lire dans le grand traité de rhétorique musicale de Matheson de 1739, Der vollkommene Kapellmeister, le musicien accompli, que le caractère du rigodon réside dans le ton d'une plaisanterie quelque peu badine. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il dit par exemple aussi que la danse lente de la sarabande, je cite, « n'a pas d'autre passion à exprimer que la révérence. Elle trouve donc tout naturellement sa place dans les musiques de cour pour saluer le prince. Mais dans sa musique religieuse, Bach utilise également ce mouvement de sarabande, et toujours à bon escient, pour traduire le recueillement et la sérénité qui précèdent l'arrivée du Seigneur, donc la communion, l'accueil du Seigneur et par extension l'attente paisible et fervente de la mort. Une façon déjà de nous dire beaucoup de choses sans exprimer dans des paroles. Le choix d'une tonalité, par exemple. Le choix d'une tonalité majeure ou mineure qui joue un rôle essentiel. Chaque tonalité, tout le monde le sait, possède un caractère spécifique. Ce que les Italiens de ce temps nomment les affetti, et les Français l'ethos, ou l'énergie des modes, les Allemands affecten. À l'orée du XVIIIe siècle, on est parvenu enfin à accorder les instruments à son fixe, les orgues ou les clavecins, de sorte qu'il soit possible de jouer dans toutes les tonalités, ce qui était impossible auparavant, tout en conservant à chacune son caractère et ses affects, ce qui a disparu plus tard, avec le tempérament égal. Tout cela a été dûment et abondamment théorisé à l'époque, en particulier en Allemagne, par le hambourgeois Matheson, que je viens de citer, Matheson qui connaissait Bach. Et ce musicien de grande culture n'a pas publié moins de 25 traités en 30 ans. C'est évidemment là ma première et indispensable source de documentation sur les procédés mis en œuvre dans cette musique. De ces nouveaux systèmes d'accords mieux tempérés, comme on disait alors, Bach va donner la démonstration, avec le clavier bien tempéré, en 1722, l'année même où son contemporain français Jean-Philippe Rameau en publie la discussion dans son traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. Ainsi, Rameau propose la méthode quand Bach établit le discours. C'est bien sûr le très célèbre clavier bien tempéré avec ses 24 préludes et fugues qui explorent systématiquement les 12 tonalités majeures, les 12 tonalités mineures, c'est-à-dire la totalité de l'univers sonore. Un exercice technique magnifique, une pédagogie de l'instrument et même un véritable traité de composition. Musique pure, oui, mais encore. Chaque prélude et fugue réalise un véritable portrait affectif de sa tonalité. La mélancolie de si mineur, la tendresse de la bémol majeur, l'ardeur de mi bémol majeur, le pathétique de sol mineur, tels que les définissent à l'envi et les commentent les traités de l'époque. Mais il y a davantage. Cette association d'un prélude et d'une fugue a été sinon inventée, du moins considérablement développée par Jean-Sébastien Bach, précisément. Le prélude, c'est le lieu de l'imaginaire, de l'imagination, auquel répond son complément la fugue, qui est le produit de la rigueur. Mais évidemment, pour le musicien, comme pour tout créateur, il n'y a pas de fantaisie sans qu'on la mette en ordre par la rigueur de la pensée. Et il ne pourrait pas y avoir de rigueur formelle autrement que pour organiser une invention. Donc, le prélude et la fugue se présentent comme l'avers et le revers d'une unique médaille, les deux faces opposées mais complémentaires d'une même pensée, d'un même être sonore, unissant la rigueur dans l'imagination et l'imagination dans la rigueur. Chaque ensemble, prélude et fugue, propose ainsi, dans le registre affectif propre à sa tonalité, comme un fragment de l'autoportrait sonore du compositeur que reconstitue en son entier l'audition intégrale de l'œuvre. Au-delà même, c'est toujours à l'image de Descartes, un véritable traité des passions de l'âme en musique. Et les témoignages du temps montrent que personne ne s'y trompait. Mais avec tous ses contemporains luthériens allemands, Jean-Sébastien Bach dispose d'un élément de langage supplémentaire qui leur est propre et que ne connaissent ni les Français, ni les Italiens de ce temps, ni d'ailleurs les catholiques allemands. Cet élément, qui ne peut qu'échapper à l'auditeur d'aujourd'hui, s'il n'est ni allemand ni luthérien, j'insiste, c'est le recours au choral. Le choral, ce cantique très simple, chanté en commun, d'où son nom, dans toutes les circonstances de la vie publique et privée, du matin au soir. Le professeur Delumeau rappelle que tout citoyen est alors sociologiquement chrétien. Et chacun chante le choral depuis sa plus tendre enfance. Le seul fait d'en entendre la mélodie est le voici qui en pose mentalement les paroles. La mélodie d'un choral peut donc intervenir comme un thème parlant, bien mieux encore que le leitmotiv wagnérien, puisqu'il n'y a pas eu besoin d'une identification préalable. Il appartient à la culture collective d'un peuple. À maintes reprises, Bach fait entendre, aussi bien dans sa musique vocale que dans l'instrumental, des thèmes de chorale sans paroles. Parce que ces thèmes sont automatiquement, par un acte réflexe des auditeurs, associés à des paroles. Celles-ci vont concourir à éclairer l'œuvre du sens qu'elle lui apporte. Alors, encore un exemple. À deux reprises, dans l'oratorio de Noël, Bach fait chanter un choral sur la mélodie d'un très célèbre cantique que tout le monde connaît et qui est un cantique de la Passion. Et pas n'importe où, c'est le premier et le dernier choral de tout l'oratorio, à 2 heures de distance. Le musicien choisit d'ouvrir et de conclure son grand récit de la nativité par l'exposé d'un cantique sur la souffrance et sur la mort, celui qu'on a entendu 5 fois dans la Passion sans saint Matthieu. Les nouvelles paroles parlent bien de la naissance, mais aux oreilles de tous, en même temps, la musique, elle, parle, si j'ose dire, du Golgotha. Pourquoi ? Eh bien, tout le monde le comprend à cette époque, en tout cas, simplement parce que pour lui, Bach, chrétien, j'y reviens, si Dieu s'incarne dans le Christ, c'est pour accomplir le plan de la rédemption, ce que parachèvera le drame du calvaire. Il nous rappelle ainsi qu'il n'y a pas de nativité autrement que dans cette perspective. Les peintres du Quattrocento ne faisaient d'ailleurs pas autrement. Dans leur nativité, les étables délabrées sont le signe d'un monde ancien à restaurer ou à achever. Et il n'est pas rare que quelque part dans le tableau, à l'horizon, se profile une croix. Mais en dehors des œuvres dépourvues de toute parole, dira-t-on. Eh bien, regardons par exemple le recueil des 6 solos pour violon. Je sais, très cher à certains d'entre vous. Si subtilement agencé par le compositeur. Bach vient de perdre brutalement son épouse, Maria Barbara. Il se retrouve seul, seul avec son violon, avec son âme. Au fil des 32 pièces du cahier, il va arracher une polyphonie sublime aux 4 malheureuses cordes de son petit violon. C'est un combat de l'esprit contre la matière, une véritable lutte de Jacob avec l'ange, de l'espoir contre la détresse. Un long voyage au bout de la nuit de l'âme avant son issue lumineuse, sa catharsis. La très célèbre chaconne, qui passe à juste titre pour un chef-d'œuvre de musique pure, de musique absolue, constitue le cœur expressif du recueil. Et d'ailleurs, elle le divise en 2 parties selon la section d'or, ce qui n'est évidemment pas l'effet du hasard. Or, voici que la musique prend la parole. Car à y bien écouter, cette chaconne se trouve parcourue en filigrane, comme les autres pages du recueil, de mélodies de chorale parfaitement identifiables pour qui en connaît le répertoire. C'est d'abord le cantique de Pâques, Christ lag in Todesbanden, Christ gisait dans les liens de la mort, puis le choral funèbre Jesu meine Freude, Jésus ma joie, qui contrairement à ce que pourrait laisser croire son titre, est un choral funèbre pour les défunts. 2 chorales qui en constituent l'armature spirituelle en chantant la mort et la résurrection. Un langage crypté, enfoui dans l'œuvre dont il éclaire la signification, celle d'un tombeau de Maria Barbara. J'ajoute qu'immédiatement après la chaconne, la sonate en ut majeur qui lui succède dans le recueil s'épanouit dans une fugue cyclopéenne, la plus grande fugue peut-être que jamais Bach ait écrite, dont le sujet est apparemment futile. Pam, pam, padadop, pam, pam, rien du tout. Mais ce sujet, ça n'est pas autre chose que le choral Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, pour qui sait le reconnaître. Donc cette fugue devient, pour qui a des oreilles, une véhémente invocation pour trouver dans le désespoir l'énergie de surmonter sa douleur. À la lumière de ces quelques exemples glanés parmi tant d'autres, apparaît le souci permanent de Jean-Sébastien Bach de dire, d'expliquer, c'est son métier. Ce pédagogue-né ne cessera sa vie durant d'enseigner. La symbolique sonore qu'il met en œuvre est l'un des ressorts de sa pédagogie, d'autant plus efficace qu'elle est facilement accessible à tout un chacun. Mais, pour gérer son art oratoire, il lui faut se fonder sur les règles de la rhétorique, qui, en l'occurrence, sont d'ailleurs exactement les mêmes que celles de l'éloquence sacrée, alors codifiées en d'innombrables traités. Il va de la sorte passer à un niveau supérieur de communication, car les structures rhétoriques qu'il imagine ne sont pas perceptibles à première écoute et demandent une lecture et une concentration particulières. Cet aspect a été très longtemps négligé, mais il me paraît essentiel. Chez un Jean-Sébastien Bach, les modalités formelles, structure, développement, ne procèdent pas, comme chez Beethoven, d'une logique dialectique ou d'une logique dramatique, comme dans l'opéra de Wagner, ou d'une logique poétique, comme chez Debussy. Chez lui, c'est d'une pensée rhétorique que procède le discours musical, pensée qui, en elle-même et par elle-même, peut se charger d'une signification. Écoutons l'un des chefs-d'œuvre de la musique pour orgue de Bach, le prélude et fugue en si mineur. Dans cette tonalité vouée à l'expression de la douleur, de la souffrance, le poignant prélude est structuré en 6 sections, alors elle parfaitement identifiable à première audition, précisément articulée selon les règles rhétoriques de l'oraison funèbre. Aux musicologues maintenant de prendre le relais et de poursuivre la recherche. À la lumière d'un faisceau de documents, j'ai pu mettre en évidence, pour la première fois semble-t-il, que cette œuvre avait été écrite pour un service funèbre, celui de l'épouse du fameux Auguste Lefort, prince électeur de Saxe et roi de Pologne. Au cours de la cérémonie, dont on a le récit, il faut lire les journaux de l'époque, une cantate avait également été exécutée, elle aussi composée pour la circonstance, l'admirable ode funèbre. Et j'ai relevé des parenthèses thématiques très nettes, très précises, entre le prélude à l'orgue et le chœur d'entrée de la cantate, comme entre le chœur final de la cantate et la fugue qui concluait le service. Du même coup, mon hypothèse d'oraison funèbre se voyait confirmée, et les paroles chantées contribuaient à éclairer la signification de la pièce d'orgue, jusqu'alors implicite. Quand on la joue toute seule, on ne sait pas qu'il y a tout ça, on ne connaît pas ces paroles. Encore un indice. Inattendu, la fugue conclusive est fondée sur un sujet mélodique qui n'est rien d'autre qu'une chanson populaire, bohémienne, de ce temps, une chanson de mal marié. Or, la princesse, bafouée par son royal époux, le prince aux mille bâtards, l'appelait-on, vivait, bien sûr, séparée de lui. Elle s'était retirée dans un château aux marches de la Bohème, précisément l'aire géographique de diffusion de la dite chanson à cette époque, chanson que l'on connaissait également à Leipzig. L'allusion était claire pour tous les auditeurs. Et maintenant, je vous propose une autre grande page pour l'orgue, le prélude en mi bémol majeur qui ouvre sa grand-messe, un recueil de hautes spéculations de la maturité du musicien. L'architecture de ce prélude est extrêmement simple et elle aussi parfaitement repérable par tout auditeur. Une alternance de refrains et de couplets aux motifs très fortement caractérisés, exactement comme dans les concertos pour cordes de Vivaldi de l'époque, nous savons tous entendre ça. 4 refrains, 3 couplets, donc 7 sections. 7, le chiffre de la création au début de la Genèse. Alors, le refrain, avec ses motifs pointés, ses vigoureuses affirmations, comme on faisait toujours à cette époque, c'est une allégorie de la majesté. Toute la musique pour Louis XIV en est marquée, selon les codes symboliques de l'époque. Majesté divine, donc figuration de Dieu le Père. On l'entend pour commencer et pour finir le prélude, et également pour finir la messe tout entière. Donc, à l'origine et à la fin de toute chose, l'alpha et l'oméga. Alors, poursuivons. Dès lors, le premier couplet, au profil descendant, tendrement incliné, ne peut que figurer celui que Luther lui-même nomme l'aimable maître des âmes, le Christ dans sa compassion. Et le second couplet, tout en mouvement volubile et comme insaisissable, l'ubiquité du souffle de l'esprit. Le troisième couplet, quant à lui, associe le Fils et l'Esprit avant le retour en majesté et pour conclure de Dieu le Père. Alors à cette première approche, je voudrais en ajouter une d'ordre analytique, très simplement, en termes très simples. Le thème de Dieu est généré par une cellule, un intervalle, simplement une quinte descendante, si bémol, mi bémol. Or, il en va de même pour le thème du Fils, qui en est donc issu. J'entends donc musicalement que le Fils procède du Père, ce que dit le credo des chrétiens. De même pour l'Esprit, qui procède du Père et du Fils, toujours selon le credo. Et ainsi, Bach nous donne à entendre le dogme bien mystérieux d'un Dieu unique en 3 personnes participant à une même essence. Enfin, je relève que la dernière apparition du refrain est strictement identique à la première. Bach referme ainsi l'œuvre sur elle-même, il la boucle sur elle-même, et il nous montre qu'on pourrait continuer à la jouer dans un mouvement perpétuel, et voilà un signe sonore manifeste qui nous adresse de celui dont le règne n'aura pas de fin. Donc la structure formelle élaborée par le musicien a vocation en elle-même et à la façon d'un langage à transmettre quelque chose qui relève de l'idée au-delà du seul plaisir esthétique. Cette obsession que Bach montre à vouloir ainsi dire se retrouve parfois là où on l'attend le moins. Tout le monde connaît le Fronde musical, ce recueil de morceaux divers fondés sur le thème d'une singulière beauté que le jeune roi de Prusse Frédéric II avait soumis à Bach comme motif d'improvisation lors de la visite du musicien à la cour de Potsdam. Entre nous, je suis absolument convaincu que Frédéric II n'a jamais sorti ça de son cerveau. Il a dû se le faire souffler, par exemple, par Carl-Philippe Emmanuel Bach, qui était son claveciniste. Alors, il y a une articulation rhétorique des 16 morceaux à l'intérieur de l'œuvre, mais on relève aussi que cette offrande présente à la prétendue sagacité du roi flûtiste une série de 10 canons énigmatiques à résoudre. Un canon, c'est-à-dire un seul petit bout de musique noté sur une portée, parfois un peu plus, et qui peut se développer et générer tout un monde sonore, surtout si on continue à le jouer en mouvement perpétuel. Comme les quatre voix de Frère Jacques, issues d'une unique chanson monodique. Mais, avec Bach, comme avec quelques autres compositeurs qui en ont pratiqué le genre, de Guillaume de Machaut à Anton Webern, le canon est évidemment d'une toute autre complexité que Frère Jacques. En tête de chacun des canons, Bach donne un indice pour résoudre l'énigme. Non pas en français, alors qu'il s'adresse au roi Prusse qui ne parle que français et qui considère que l'allemand est une langue bonne pour les chevaux et les palefreniers. Non pas en allemand, sa propre langue, mais lui qui est très fier d'affirmer sa germanité face à Frédéric II qu'il déteste. Pas même en italien, qui est la langue universelle de la musique à cette époque. Non, il le fait en latin. Et avec des jeux de mots en latin, ce qui est pour le moins étrange. Alors, je me suis demandé pourquoi. Au-dessus de l'un des canons, il a même écrit « Querendo in venietis ». Cherchez, vous trouverez. Ah, évidemment, c'est bien ce qu'il convient d'affirmer quand on pose une énigme à quelqu'un. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas sans une pointe de perfidie, parce qu'il était certainement bien convaincu que ce roi ne serait pas capable de résoudre ses énigmes, quelles que soient ses prétentions musicales. Alors, on ne s'est apparemment pas avisé, et c'est ce que j'essayais de faire, que cette injonction était tirée des évangiles de Luc et de Matthieu. Quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Que viennent faire les Écritures dans des morceaux profanes destinés au divertissement de la cour d'un monarque résolument athée ? Alors, grâce à la complicité d'un ami ici présent et que je remercie, j'ai pu faire enregistrer quelques petits exemples musicaux qui vont illustrer mon propos. Et d'abord, le thème lui-même, qu'on appelle le thème royal, le thema regium, le thème que Frédéric II a donné à Bach. Le voici. Je reprends maintenant mon examen de l'œuvre avec le premier de ces 10 canons. Jean-Sébastien Bach développe ce thème royal que nous venons d'entendre en une souple mélodie sur une seule ligne de musique. La voici. C'est donc le premier des canons proposés à la sagacité de Frédéric II. Et cette petite ligne de musique porte un titre, canon à deux parties. Or, on n'a qu'une seule partie. Au musicien de déduire la seconde partie de la première, celle qui est notée que nous venons d'entendre. Or, au début de la ligne, Bach a tout naturellement écrit une clédute avec trois bémols, mais à l'extrémité de cette même ligne, à la fin du motif que nous venons d'entendre, il a à nouveau noté une clédute et trois bémols, mais à l'envers. C'est donc l'indication que ce morceau doit être joué à l'endroit, comme on vient de l'entendre, mais aussi à l'envers, simultanément, en lisant de droite, de gauche, je dis bien de droite à gauche, et aussi de gauche à droite. Alors, on va entendre maintenant cette ligne de musique, mais écoutez, de droite à gauche, qui est tout à fait insensé, parce que la musique, c'est un art du temps, c'est l'art, un art qui se développe dans le temps, et voilà que tout d'un coup, on met en marche la machine à remonter le temps, ça n'a pas de bon sens, c'est comme une rivière ou un fleuve qui remonte de sa embouchure vers sa source. Alors, voilà ce que ça donne si je lis cette ligne de musique à l'envers, comme il nous y invite. Mal. C'est tout à fait cohérent. Comme si, au bout de la ligne, j'avais placé un miroir qui me renvoie l'image de ce qu'on a entendu précédemment. Donc, deux lignes, une qui se déroule normalement dans le droit fil du temps et l'autre qui va remonter le temps. Chacune des deux parties va ainsi aller à la rencontre de l'autre. Et les deux lectures de la ligne musicale se superposent harmonieusement. Alors maintenant, le claveciniste, un véritable tour de force naturellement, le claveciniste va maintenant jouer à l'endroit et à l'envers simultanément. Véritable tour de force, et je ne suis pas sûr que Frédéric II ait compris exactement de quoi il s'agissait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que nous venons d'entendre, lorsque j'entends la première note de la pièce, j'entends également la dernière. Je prends connaissance simultanément de l'origine et de la fin du morceau, c'est-à-dire de l'origine et de la fin du temps. Et à mesure que se déroule la lecture, mon esprit demeure constamment comme suspendu en anamnèse, disent les théologiens, dans la double conscience, simultanée comme Janus Bifrons du passé et du futur. Ainsi, Bach renvoie-t-il à Frédéric II à ses écritures dont il ne se soucie guère, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Mais ce n'est pas tout. À mesure que s'écoule le temps de l'exécution, ma connaissance de l'œuvre n'a fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'elle sera totale au centre de la ligne, après quoi la musique va se poursuivre symétriquement, pli selon pli. Il y a donc eu un accroissement de la connaissance jusqu'à la culmination centrale où tout se trouve connu. Et on poursuit. Le trajet parcouru par les deux parties a donc dessiné un qui, le qui grec, selon la figure de rhétorique bien connue du chiasme, qu'utilise tout le temps Bach d'ailleurs, et qui est aussi le signe de la croix. Et voilà que cette petite ligne de musique en apparence parfaitement anodine tient un langage à qui sait l'entendre. Cherchez et vous trouverez, on a trouvé, la figuration du Christ en croix. Et ce n'est encore pas un hasard si c'est ce canon-ci que Bach a placé en tête de la série afin d'orienter la lecture de cette œuvre énigmatique. L'organisation complexe d'une œuvre comme cette offrande musicale nous met ainsi sur la piste d'un nouveau niveau sonore, d'un niveau encore supérieur du discours musical de Bach, celui de l'organisation globale d'un ensemble de pièces groupées en un tout organique. De même que les fresques de Giotto à la chapelle des Scroveni de Padoue ou celles de Michel-Ange à la voûte de la chapelle Sixtine ou encore les verrières de Chartres ou de Bourges s'ordonnent selon un programme iconographique offert à notre lecture est porteur d'un discours implicite, d'un enseignement spirituel. De même, Bach organise-t-il ses grands recueils selon un programme rigoureux de caractère rhétorique. J'aimerais illustrer mon propos d'un ultime exemple que j'emprunte à une œuvre aujourd'hui fétiche, les variations Goldberg. Œuvre de la haute maturité du vieux Bach, du temps où son art de la spéculation et de la combinatoire a atteint son apogée. Pour de multiples raisons qui seraient beaucoup trop longues d'évoquer ici, j'ai déjà été très long, l'œuvre compte 30 variations enchâssées entre une aria qui expose le thème et sa reprise à l'identique pour conclure, donc 32 pièces au total, comme les 32 morceaux des solos pour le violon ou les 32 paires de variations de la chaconne. Or, l'aria fondatrice de cette architecture, des variations Goldberg, compte 32 notes à la basse en 32 mesures. Avec son schéma mélodique et harmonique, son organisation même, cette petite aria, cette sarabande, préfigure à la fois la structure de chacune des 30 variations, mais aussi la structure en 32 morceaux globale de l'œuvre, c'est-à-dire que sa microstructure est à la fois l'annonce et à la fin le reflet de la macrostructure de l'œuvre. Les variations se succèdent dans une totale fantaisie apparente. Mais à y bien écouter, une variation sur trois est un canon. Toujours fondée sur les notes de basse de l'aria, bien sûr. Une sur trois, encore un signe trinitaire. Et de plus, sur le plan spirituel, le canon, vous le savez, c'est le signe tangible de la règle, de la loi divine. En fait, de troisième variation, nous entendons un premier canon, canon à l'unisson, au premier degré, c'est-à-dire dont la ligne mélodique se superpose à elle-même à l'unisson. La sixième variation est à nouveau un canon, le deuxième canon, cette fois-ci à la seconde. Nouveau canon pour la neuvième variation, donc le troisième canon, et cette fois-ci à la tierce, etc. C'est toujours la même logique. Et ainsi de suite. Et Bach va s'arrêter à la 27e variation. Un canon à la neuvième, par conséquent, selon le programme qui s'est fixé. Neuvième canon, à la neuvième, 3x3, en lieu de 27e variation, 3x3x3, c'est-à-dire que c'est un signe évident de la Trinité élevée à sa propre puissance. Ce que je lis comme un éloge trinitaire, vous pourriez le mettre en doute, bien entendu, si le musicien ne donnait maint exemple de cette démarche au long de son œuvre. Par exemple, cette messe pour orgue dont je parlais tout à l'heure avec le prélude en mi bémol est composée de 27 pièces. Et la fugue conclusive, qui est une triple fugue, bien sûr, fait apparaître 27 fois le motif de Dieu le Père, pour résumer ainsi dans sa microstructure la macrostructure du recueil. Dernier point, la 30e et dernière variation n'est pas un canon à la 10e, comme on pourrait s'y attendre. Il a tout dit. Après l'apothéose du canon à la 9e, c'est fini. Mais cette ultime variation qu'il faut bien écrire pour achever, pour conclure selon le plan général, c'est bien un canon à son tour, encore et toujours sur la même basse fondatrice, mais c'est un jeu de deux chansons populaires entremêlées en canon, destinées à faire sourire les auditeurs qui viennent d'écouter quand même une heure et demie de musique. Alors ces auditeurs, ils connaissent ces vieilles chansons, et donc ils en connaissent les paroles, elles ne sont pas chantées au clavecin, mais les auditeurs les comprennent et ils entendent un savoureux dialogue entre les deux chansons. Un dialogue dans lequel l'une des deux chansons déplore la mauvaise qualité de tout ce laborieux travail qui vient de précéder. Hein, si ma mère m'avait fait cuire de la viande au lieu de faire ses choux et ses raves indigestes, bon, ça se serait passé autrement. C'est ça le texte de la chanson. Et l'autre chanson, qui est une chanson d'amour, s'adresse à l'aria fondatrice, l'aria qu'on a entendue une heure et demie avant, qu'on n'a plus revue depuis, même si elle était présente par la basse, et lui dit, ce sont les paroles de la deuxième chanson, « Il y a bien longtemps que je n'ai été près de toi. Reviens, reviens, reviens. » Et l'aria revient pour boucler le cycle des métamorphoses et conclure l'œuvre. Une nouvelle fois, la musique a pris la parole. Ces quelques exemples, je conclus, beaucoup trop brefs et qu'il aurait fallu accompagner de nombreuses citations musicales, sonores, n'avaient de ma part d'autre ambition que de mettre l'accent sur l'existence d'un langage musical qu'ont pratiqué les plus grands compositeurs autour de 1700, et en Allemagne en particulier. Il y a là un champ considérable et neuf de recherche auquel personnellement je consacre une bonne part de mes travaux. Or, à l'issue d'un cours où je développais ces points, un de mes étudiants m'a un jour fait observer qu'à ses yeux, ou à ses oreilles, il n'était pas utile vraiment d'avoir cette connaissance pour être sensible à la beauté de la musique. Mais heureusement, L'émotion d'abord. Indispensable, certes non. Mais utile, pourquoi pas ? Je peux prendre, lui ai-je répondu, le plus grand plaisir esthétique et même sensoriel à assister à un spectacle de gagaku, y éprouver une intense émotion. N'empêche que si j'ignore la langue, la culture, le fond mythique et philosophique d'où est issu le thème de cette œuvre d'art, les arcanes du shintoïsme, les règles des mouvements corporels des acteurs, la signification de leurs masques et plus encore la grammaire même de la musique que j'entends, il me semble qu'une partie du plaisir que l'on a voulu me procurer, et peut-être pas la moindre d'ailleurs, m'a certainement échappé. Et avec le plaisir qui n'en existe pas moins, la signification même de ce que je ne puis qu'admirer en étranger et non comprendre en même temps que ressentir. Cette observation montre à quel point notre époque a perdu le sens des signes. Et pourtant, et là j'aurais envie de poser la question aux éminents créateurs qui sont ici présents, toute œuvre d'art ne nous adresse-t-elle pas des réseaux de signes d'un ordre ou d'un autre ? À nous d'y être sensibles et d'aimer vouloir les lire. Il me souvient d'être arrivé jadis devant l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, que je ne connaissais pas encore, et de mon intense émotion lorsque j'ai découvert les 12 piliers de la tour Porche qui accueillaient le visiteur pour le guider vers le cœur où il lui fallait inéluctablement se rendre, comme les 12 piliers de la sagesse, une figuration tangible de la cité céleste aux 12 portes accueillant le pèlerin au seuil du parcours spirituel auquel je me voyais convié, comme tout à l'heure, le prélude de la grand-messe pour orgue de Bach m'invitait à l'écoute du recueil et m'en annonçait le sens. Je dirais simplement, pour conclure, que je vois personnellement en cette démarche l'humble et noble tâche dévolue aux musicologues. Tenter d'explorer quelques-uns des secrets ressorts, non pas du mystère de la création qui, Dieu merci, nous échappera toujours, mais plus modestement du faire et du dire dans la composition musicale et tenter d'enrichir ainsi, pour qui veut l'entendre, sa perception des œuvres, ce que je nomme la fonction du passeur. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Gilles Cantagrel sur Symbolique et rhétorique chez Jean-Sébastien Bach. Vous trouverez sur notre site www.canalacademy.com de nombreuses émissions consacrées à la musique et particulièrement une émission avec Gilles Cantagrel sur la rencontre de Bach et Buxtehude en 1705 et une autre communication de Gilles Cantagrel consacrée à Mozart. Bonne journée à tous.